La Poche Bleue, une présentation de La Cage chez vous et TotoHebdo.net.
Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. La formation de départ, The Starting Lineup, le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, Number 84, Guillaume Latendresse.
Hey, je t'ai dit que t'as le t'sais, le bleu, je viens toujours pour dire, c'est mercredi, c'est les gars de la poche bleue. Ils ont de la voix à la chorale, les boys. Salut Maxime, salut Guillaume.
Hey, c'est Max qui chante, Mario.
Ça va bien, vous autres. Ouais, Max, il chante-tu de temps en temps? Vous êtes-vous lâché l'os à chanter pendant
Max,
un podcast?
Chante pas ben.
Non. Max, il chante pas, c'est un gars gêné, mais une fois, on a fait un karaoké chez nous, puis il s'en venait un peu pompette, puis il nous a fait « Si Dieu existe », là.
Ouais.
Je te le dis, là, c'est comme Alan dans Hangover 2, là, quand il tient la note, là, pendant une minute.
T'es sérieux?
Ah, c'était de la magie, du bonbon, Mario.
Bon, ben, on va faire ça d'ici les fêtes, les gars, OK? On va faire ça, là.
Bonne chance, les gars, je vais
On va organiser ça. Toi, Guillaume, t'es-tu bon pour chanter? Chanter à pomme, au moins, là, tu sais, quelqu'un. Tu dois pas, ben, tu dois pas pire là-dedans.
J'adore ça, honnêtement, chanter. Puis c'est le Régis qui est assez surprenant, je pense.
Ah oui? Là, tu parles pas de Régis Lévesque, là.
Non. Je parle du Régis musical.
Ah oui? Fait que tu chantes haut?
Je chante, non, dans le sens que je chante des chansons que les gens de mon âge n'écoutent pas.
Il chante trop, c'est ça le mot exact.
Ah, bon. Alors,
Max, raconte l'histoire quand vous faisiez le piqué meeting puis j'étais dans la douche.
Oh, c'est quoi ça?
T'en souviens-tu?
Ah oui, c'est... On était à notre meeting
après
la pratique
numérique.
Matinale, la journée des matchs, puis on était avec Kurt Muller qui nous explique le désavantage numérique, puis à un moment donné... Tu sais, la douche au Centre Bell était pas trop loin de la place où on faisait le vidéo. Puis notre ami Guillaume a décidé de commencer à chanter. Je pense que c'était quoi, Guillaume? Le ciel bleu ou quelque chose
de même.
C'est mais quand même de... très, très fort, tu sais. Puis ça l'avait arrêté, notre meeting, en désavantage numérique. Puis les gars ont dit, c'est qui est heureux de même un matin? Puis là, on est tous partis à rire. Tu sais, on se regardait, on disait, il y en a un qui est de bonne humeur aujourd'hui, game day. Ça va être une grosse game à soir.
Avais-tu joué une grosse game, Guillaume?
Me souviens pas, mais l'hymne à l'amour, ça. Le bouillon, je me souviens bouillon, tout le monde était sorti. Qu'est-ce que tu fais là, Motadine?
Qu'est-ce qui se passe? Mais si t'as le goût de chanter dans ta douche, j'imagine qu'il y a un certain bonheur qui t'habite, Guillaume. Et Maxime, ça doit être la même affaire. Je sais pas si c'est dans la douche que ça se passe. Mais on va mettre vos talents à l'épreuve d'ici les fêtes, les gars. Faut bien s'amuser. Si on vaut pas une risée.
Ben, honnêtement, Maxime qui chante, ça pourrait être un beau cadeau de Noël pour nos amateurs.
C'est incroyable. Parfait, Guillaume, je vais faire un échange.
On va faire
un échange. Meilleur 10 km à la course, je vais te donner un certain temps, puis en échange, je vais chanter. Je vais penser à tout ça.
Mais, sais-tu quoi? On pourrait, parce que ça fait un petit bout de temps, je germe avec l'idée, là, mais on pourrait recueillir des fonds avec ça. C'est-à-dire qu'on pourrait recueillir tant de dollars, puis rendu à tant de dollars, ça t'oblige à chanter. Pour une bonne cause. On réfléchit à ça. OK, les boys, l'idée est lancée. Ça fait un bout de temps, je mijote tout
seul là-dedans. Merci, les gars. Ma soirée va bien jusqu'à maintenant. C'est super le fun.
C'est le fun qu'on ait demandé l'opinion à Max. Il est comme, les gars, c'est parce que je suis là.
Merci de ton implication communautaire, Maxime.
C'est pas pour rien qu'il avait gagné le trophée Jean Béliveau. C'est parce que c'est un gars qui s'implique depuis des années. Puis il continue de le faire, même en après-carrière, à Berlin. Ça démontre la grandeur de cet homme.
Pour devenir un citoyen et un athlète exemplaire, comme tu l'es, Maxime, dis-moi, as-tu besoin d'un mentor dans ta vie, de quelqu'un qui te montre comment faire les choses de la bonne façon, à partir de ta vie familiale, de ton apprentissage dans les années d'adolescence jusqu'à ta vie de professionnel?
Oh! Ben oui, je pense que ça commence toujours avec les parents qui t'apprennent les bonnes valeurs, puis l'éthique de travail, avoir du cœur, puis tout ça, ça vient de la famille, puis mes parents me l'ont bien montré. Mais après ça, je pense que t'as un mentor pour chaque étape dans ta vie. Ça commence, comme je l'ai dit, avec la famille, puis après ça, ben t'as tes entraîneurs dans l'hockey mineur qui te transmettent certaines valeurs, puis un jour t'arrives junior majeur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Alain Vigneault, qui était parfait pour moi comme entraîneur. C'est un gars qui communiquait bien, puis qui arrivait de la Ligue nationale, puis il m'a aidé aidé justement dans ma transition à devenir un professionnel au hockey. Puis quand tu arrives dans la Ligue nationale, ben t'as les vétérans, t'as les gars qui t'entourent, qui te montrent comment ça fonctionne, le respect des valeurs de l'équipe. Tu sais, on s'entend là, quand tu commences avec le Canadien de Montréal, tu l'apprends rapidement. Tu le sais en tant que Québécois, là, ça c'est certain que le Canadien de Montréal à quel point c'est gros, mais d'avoir des gars, on en parle souvent, comme Sako Koivu, des Francis Bouillon. Moi, je me rappellerai toujours, Mario. Je me rappelle pas si Guillaume était là, mais la première fois que j'ai mis le chandail du Canadien de Montréal dans le vestiaire, tu sais, là, tu regardes le chandail puis tu dis, bon, mais ça y est, là, je le mets pour vrai, là, c'est plus le repêchage, c'est plus une pratique au Centre Bell, c'est tu mets le chandail puis t'embarques sur la glace dans 8 minutes. Puis Francis Bouillon, il s'est élevé puis il avait commencé à applaudir. Puis ça, dans moi, ça a fait tabarouette, ça a pas de bon sens. Je viens de mettre le chandail du Canadien, les gars niaisaient, tu sais, d'une certaine façon, oui, pour me rendre un peu gêné, mais Francis, lui, je savais que c'était vrai. Il applaudissait parce qu'il réalisait c'était quoi pour un Québécois de mettre le chandail du Canadien. Puis à partir de ce jour-là, là, Francis, je sais pas si t'en rappelles, Guillaume, dans l'autobus, partout, il nous parlait toujours, c'était toujours positif. Il nous disait toujours, tu réalises à quel point t'es bon. Tabarouette que t'es bon, t'as tellement des bonnes mains, t'es tellement vite. Il disait à Guillaume, c'est incroyable un joueur comme toi. Il me disait comme moi, à moi, t'es tellement rapide. Puis notre confiance était au maximum. Puis je te dirais que le jour que j'ai arrêté de jouer avec Francis Bouillon, ça a eu un impact sur ma confiance parce que j'ai réalisé que ce gars-là, à chaque jour, c'était tellement immense ce qu'il apportait pour un jeune. À son départ, c'est là que j'ai réalisé à quel point il était important pour moi.
Ben, hey, c'est bon, ça. Ouais, c'est wow.
J'ai pas chaud d'endosser, honnêtement.
Mais je suis pas surpris, mais j'ai pas été dans la chambre avec vous autres. Guillaume, tu l'as vécu avec Frankie Booth aussi, non?
Ouais, Frankie, c'était le gars qui prenait soin de tout le monde, mais oui, c'est vrai qu'il y avait des discussions plus personnelles ou plus one-on-one avec les boys, de même surtout nous autres, les plus jeunes Québécois. Ils voulaient bien nous entourer, ils voulaient nous permettre d'avoir notre éclosion, oui, de prendre notre place, mais aussi d'être certain de le faire de la bonne façon, puis un rythme qui était, tu sais, tout le monde le sait, là, j'ai vécu quand même une situation incroyable à mes débuts, là. Je pense que Frank a essayé de... Puis, tu sais, je dois rentrer aussi un gars comme Beige ou Dandy, mais je pense que Francis était vraiment le gars en avant qui portait le drapeau, dans le sens que il voulait prendre soin de nous autres, puis il voulait qu'on fasse les choses comme il faut, fait que oui, j'ai pas le choix d'endosser ce que Max dit, là, Frank Bouillon, pour tous nous autres, pour toutes nous autres, les jeunes, là, il a été exceptionnel de Mazan.
Les gars, bon, Francis avait sa façon à lui d'intervenir puis de vous soutenir, mais diriez-vous, là, sans, je vous suggère pas de nom, mais juste le film de vos carrières qui défile dans vos têtes, les gars qui vous ont le plus influencé, est-ce qu'il y en a qui vous ont influencé sans dire un mot? Tu sais, juste la manière qu'ils agissaient, par exemple. Ou ça prend des paroles puis ça prend un contact plus intime, un peu plus de proximité pour que quelqu'un ait une influence sur nous.
Ben moi, non, c'est aussi simple. On vient de le mentionner, Mario, Steve Bégin. Ce gars-là, juste la façon qu'il pratiquait, de voir un gars qui arrivait à l'aréna, qui avait de la misère à marcher, mais quand il embarquait sa glace, il donnait son 100%. Il bloquait un lancer, il rampait jusqu'au banc. Tu te dis, bon, mais la prochaine, il va peut-être se tasser un petit peu. Non, il rembarque puis il essaie de le bloquer avec son visage. T'sais, tu comprends le genre, là? C'est juste ouais, de voir ça. Pour moi, c'est un respect. C'est le respect de l'organisation. C'est le respect de ton employeur, c'est le respect de tes coéquipiers. Puis ça, c'est Steve, il nous apprenait des choses en silence, tandis que Francis, c'était plus des discussions avec un café, tranquillement, puis il essayait de savoir comment qu'on se sentait, puis tout ça, puis il amenait toujours du positif. Mais, tu sais, on parlait il y a une couple de semaines, Mario, puis Guillaume, un leader. Il y a différentes sortes de leaders. Il y a des gars silencieux, il y a des gars que c'est par l'exemple, il y a des gars que c'est dans le gym, il y a des gars que c'est quand ils t'appellent le soir pour savoir comment tu te sens. Donc c'est vraiment important pour une équipe, puis c'est pas juste le capitaine qui fait ça, c'est souvent plusieurs joueurs, je te dirais entre 6 et 8 joueurs dans une équipe.
Je vais te nommer un nom, Mario, là, que tu vas dire, ah ouais, moi un gars qui m'a marqué, Alex Kovalev. Dans le sens que c'était pas le gars qui parlait le plus, mais le gars, c'est une légende.
Ouais.
C'est une all-star.
Ouais.
Il nous traitait comme ses buddies. On était dans la chambre avec... C'est un des gars les plus drôles. Un des gars qui détend le plus l'atmosphère, qui nous a traité, en tout cas, je sais pas l'opinion. Moi, en tout cas, j'ai adoré Kovi. La façon qu'il avait dans la chambre de détendre... Tout le monde le regardait quand même. C'était notre all-star. C'était lui qui contrôlait le vestiaire. C'est lui qui contrôlait ce qui se passait sur la patinoire. Puis, tu sais, dans l'avion, j'étais assis à côté, on jouait aux cartes. Il est hyper mollo, hyper respectueux. Tu sais, c'est... Oui, Frankie, Beige, il emmenait vraiment le day-to-day, mais tu sais, des fois, on regarde des vedettes, on regarde des gars, puis on se dit, comment qu'ils sont, ces gars-là?
Ouais.
C'est marquant aussi. d'une autre façon, mais c'est marquant. Puis des fois, pour le public, ils s'attendent pas que ces gars-là, que le nom pourrait ressortir. Kovy, il m'a pas pris comme bouillon, m'a pris pour me parler, mais juste dans sa prestance, juste dans l'aura que ce gars-là avait, moi c'est un gars qui m'a marqué dans ma carrière quand même.
Et tu parles de Kovy, puis Maxime, t'as effleuré, tu dis c'est pas toujours les capitaines. J'allais justement demander, c'est toujours les capitaines, les leaders des équipes, tu y as un peu répondu. Puis étiez-vous d'accord pour dire que quand Kovalev avait lissé son chandail, qui ça lui donnait un petit quelque chose de plus à la glace, il prenait tout ça à cœur, devenait-il un gars différent dans le vestiaire?
Ben écoute Mario, je vais te donner mon opinion là-dessus. Moi je pense vraiment pas qu'une lettre ça change quelque chose pour un joueur dans sa façon de se comporter sur la patinoire. Je m'explique. Je pense que Kovalev, quand il avait le C, on s'entend que c'est parce que Sakou était pas là, où il manquait des joueurs dans l'alignement puis tout ça. Puis il savait en tant que leader qu'il fallait que ce soir-là, il lève son jeu d'un cran. Je pense que c'est tout aussi simple que ça. Il savait qu'il manquait du monde, puis ce soir, on comptait sur lui pour avoir plus de temps de glace, plus de responsabilité, encore une fois, à cause des blessures. Puis je pense que c'est tout simplement un leader qui sait qu'il doit aider son groupe de joueurs en arrière de lui.
Mm-hmm. Mais t'es d'accord, Max, que Kovalev, il était marquant, tu sais, dans sa prestance, dans sa personnalité?
Ouais, 100%. Je pense que, en tout cas pour nous deux, Guillaume, il nous a inclus vraiment dans ses activités puis tout ça. Il a toujours été respectueux. Il essayait de, tu sais, moi je me rappelle un petit truc que ça a resté avec moi. Tu sais, il avait regardé mon bâton puis il avait dit bon, ben il va falloir qu'on travaille un petit peu là-dessus. On l'avait coupé plus court, on avait changé la courbe, l'épaisseur de la palette. Puis il m'a dit bon, mais tu sais ça, c'est plus facile de manier la rondelle avec un bâton comme ça. Puis je l'ai toujours gardé le même bâton, même hauteur puis tout ça. Puis c'est Alex, qui avait coupé mon bâton pour m'aider. Ouais. Je sais pas s'il essayait de m'envoyer un message pour mes mains, mais en tout cas, je l'ai.
Il était vraiment de même parce que même, tu sais, des fois, des passes, tu sais, quand on dit there's never a bad pass for a good player, tu sais, peu importe où la rondelle, Kovalev, mais une passe, un pied en arrière ou un pied en avant ou deux pieds, il va la pogner, tu sais. Puis nous autres, les plus jeunes, des fois, on avait peut-être pas ces aptitudes-là. Puis là, il m'avait pris tout seul sur le cerf de m'emmener. Il m'avait dit non, il dit penche ton bâton. Quand la rondelle arrive, penche ton bâton comme ça. Si elle est en arrière, mets ton patin. Il m'avait montré des tu sais, c'est...
Des trucs de récupération de rondelles.
C'est niaiseux, ouais. Mais c'est Alex Kovalev. Y a-tu d'autres choses à faire, tu penses, que de prendre un kit de 19 ans pour lui montrer à faire une récupération de rondelles rendue dingue nationale, tu sais? Mais le gars a pris le temps, il voulait m'aider, il voulait bien faire. Mais c'est des gestes comme ça qui comptent pas dans le leadership ou qui comptent pas dans changer, mais qui marquent quand même. Tu sais, il te regarde Alex Kovalev.
Ben, il a marqué les amateurs de hockey, je peux vous le dire. Ben en tout cas, les gars, si vous avez marqué, c'est normal. Puis d'ailleurs, si on fait un petit quiz ensemble avec deux gars qui ont porté le chandail puis un humble observateur depuis bien des décennies, est-ce qu'il y a eu un gars qui a eu plus d'impact que Kovalev depuis 1995 ici à Montréal dans l'uniforme, là, comme, tu sais, en termes de star, de vedette, de rayonnement, que tu as le goût d'acheter son chandail, de faire lever le monde de le siège, même si on disait qu'il y a des soirs qui se présentaient pas. Puis j'ai fait ça plus long pour vous donner le temps de penser à d'autres noms. Mais y a-t-il un autre nom qui vous vient en tête? Y a-t-il un gars plus flamboyant que Kovalev? Ben, pas juste flamboyant, parce que ça pourrait être réducteur.
Ben, je pense que, tu sais, on regarde Carey Price. Je pense que pour moi, c'est une superstar. C'est probablement une des plus grandes stars avec qui j'ai joué. Il a pas eu la chance de gagner, puis tout ça. Mais tu sais, je veux revenir un peu, puis ça a rapport avec Carey Price. Tu sais, on parle souvent de leadership, comme qu'on vient de le mentionner. Les plus grands leaders, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font en silence. Ils ont pas besoin des projecteurs, ils ont pas besoin d'être dans le journal ou à la radio ou à la télévision, puis de se faire dire qu'ils sont bons puis qu'ils sont là pour l'équipe. Fait que normalement, ce qu'ils font, c'est en silence, puis ils veulent pas être vus par personne, parce que pour eux, l'important, c'est l'équipe, c'est pas eux, puis ils ont pas besoin d'attention. Je pense qu'un gars comme Carey Price est comme ça. Il va parler, tout le monde l'aime dans le vestiaire, mm-hmm. il amène un sourire à l'aréna. Je trouve que ce gars-là, c'est un gars d'équipe. J'ai eu la chance de gagner avec lui dans la Ligue américaine. Il amène un vent, tu sais, c'est positif ce qu'il amène dans le vestiaire. Tu sais, on oublie le côté là sur la patinoire, on le sait que c'est le meilleur gardien dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est un leader silencieux, puis parfois je trouve que, tu sais, c'est facile de dire ce gars-là c'est un leader parce qu'il prend le micro puis il dit ce que le monde veut l'entendre dans une entrevue. Mais un vrai leader pour moi, ça dit ce que ça allait à dire en arrière. Quand personne le voit, personne n'entend.
Et t'étais peut-être un témoin privilégié d'un point tournant de sa carrière où je pense qu'il est devenu un gars plus mature. C'est le printemps 2010 que j'ai baptisé à l'époque le printemps à l'acte. On va revenir dans un instant, les gars. On fait une courte pause. On revient avec Guillaume et Maxime de La Poche Bleue. Et on va parler des duos de gardiens, justement, camaraderie jusqu'à quel point. On parle de Jake Allen, Carey Price. On veut de l'efficacité devant le filet, mais on veut aussi de l'harmonie ailleurs dans la formation. On revient tout de suite.
La Poche Bleue, une présentation de La Cage chez vous et d'AutoHebdo.net.
Nous sommes de retour avec Maxime Lapierre depuis Berlin et Guillaume Latendresse depuis quelque part sur la rive sud. Maxime, avez-vous commencé à jouer des vrais matchs, vous autres, là, ou c'est pas sur le bord pantoute? Juste une petite parenthèse, là.
Ben là, on joue vendredi dans le tournoi là, qu'on commence pour un mois. Fait que ça va faire du bien de jouer du vrai hockey avec un classement au moins, là, puis des statistiques puis tout ça. Mais la vraie saison, si ça recommence, ça va être à la mi-décembre environ.
Tu as l'occasion de jouer le rôle de mentor avec Lucas Reichel. Son agent, Alain Roy, dit beaucoup de bien de toi. As-tu un modèle? Je veux dire, décides-tu d'une façon qu'on va influencer un plus jeune, Max?
Oui, je pense que ça va avec le tempérament. Avec Lucas, j'ai vu que c'était un gars tranquille, qui était prêt à faire toutes les bonnes choses, puis qui était prêt à apprendre. C'est pas le style de gars que tu as besoin de pousser puis de lui dire écoute, ce soir tu dors un peu, là, va falloir que tu te réveilles. C'est plus le gars avec qui tu as une discussion puis tu lui dis écoute, je pense que si t'étais positionné de cette façon-là, peut-être ça aurait aidé sur cette présence-là sur la patinoire. Puis c'était vraiment une discussion avec un jeune, puis moi ça a tellement été un beau projet pour moi encore une fois, je joue avec lui puis je pratique avec lui ici à Berlin, mais de voir un jeune de 17 ans puis de réaliser à quel point il en reste encore longtemps là, dans sa carrière à jouer au hockey puis à apprendre. Je trouve que je lui donne des conseils à l'accélérer d'une certaine façon, parce que j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey, puis lui il est d'âge junior, donc tu sais, d'avoir la chance pour lui d'être dans le vestiaire avec d'autres gars aussi là qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey, je trouve que t'accélères un peu le processus là, de voir comment tu dois te comporter comme jeune joueur dans la Ligue nationale, puis qu'est-ce que ça va prendre pour te tailler une place, puis c'est difficile pour un gars de talent d'arriver puis d'ouvrir les portes puis des deux premiers trios dans la Ligue nationale de hockey, tu sais, donc tu dois développer d'autres aptitudes pour être capable de jouer sur le troisième, quatrième trio, justement, pour commencer au moins ta carrière puis faire ta place tranquillement, pas vite. Puis ça, je pense que c'est une chose que les jeunes réalisent pas souvent, c'est faut que tu trouves un moyen de rentrer dans la Ligue nationale. On le sait que tu as le talent, mais c'est de rentrer qui est difficile. Puis parfois, la façon de rentrer, c'est d'être sur un quatrième trio, de jouer 10 minutes, ou sur un troisième trio parce que tu es responsable défensivement. Puis après ça, tu réussis à atteindre l'objectif ultime qui est d'être sur les deux premiers trios puis l'avantage numérique.
Guillaume, puis je sais pas si le petit Reichel est réceptif. Guillaume, tu as fait ça un peu, toi, avec Jean-Gabriel Pageot, avec Ottawa, je pense, le temps que tu étais là avec les Sénateurs.
Ouais, ben tu sais, viens une partie, puis j'ai pas joué 15 ans dans la Ligue nationale, là, j'ai joué 7 ans, mais viens une partie où ce que t'as pris tellement de... Puis je pense qu'à Montréal, comme Max a un peu fait avec Reichel, c'est en accéléré, là. Une saison à Montréal équivaut sûrement à 10 saisons pour les Sénateurs, là, sans rien enlever, dans le sens que les médias, les fans, tu sais, on comprend ce que je veux dire, là. Mais oui, quand Jean-Gabriel est arrivé, l'aspect francophone, l'aspect on avait beaucoup de leadership dans notre vestiaire avec les Sénateurs. Moi, j'étais dans une position dans ma carrière où je me battais pour ma place dans la Ligue, mais en même temps, je pense que j'étais apte prêt à offrir mes services, dans le sens que juste des petits conseils, juste de le calmer, juste de lui permettre de laisser son talent parler, je pense que c'est le plus important. Puis il vient dans un moment dans une carrière où, pas parce que je me bats avec le gars pour le même poste, moi j'aime mieux battre un gars quand il est à son plein rendement, quand il est à son plein potentiel. Je sais pas si tu comprends.
Oui.
Je me souviens de mon camp en Arizona. Je me souviens pas du nom du joueur. C'était le premier show au total. Puis le coach, puis moi, j'avais un super de bon camp. Puis le coach était rentré dans le vestiaire. Puis je me battais, là. C'était moi puis lui. Il gardait un des deux. Puis le gars, c'était le premier choix. Puis on connaît comment ça... Puis c'est pas grave. Mais j'étais rendu une place que le coach est rentré dans le vestiaire après la première période. Puis il a dit, si tu te réveilles pas, il va falloir garder ce gars-là. En parlant de moi, tu sais, directement, j'étais à côté du gars. Puis au lieu de prendre ça puis de dire crime, ça va bien mes affaires, je me suis viré puis j'ai dit au kid, j'ai dit justement un peu comme Max a dit, mais moi je me battais contre. J'ai dit, c'est pourquoi tu t'es repêché? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es ici? C'est quoi ton talent? C'est quoi ton étiquette que tu veux laisser dans ce cas? Tu sais, j'ai viré ça au kid de je l'ai aidé, j'ai voulu y amener, y faire voir la perception de ben c'est là qu'on est, puis après ça on embarque sur la glace les deux, on se bat pour le poste, puis les deux on veut l'avoir, puis mais je trouve qu'il vient un certain moment dans ta carrière où tu dois devenir un mentor, peu importe le rôle ou l'endroit que t'es. J'étais dans la position la plus vulnérable que je pouvais être, mais il reste que quand même, je sens que je pouvais apporter quelque chose à ce jeune-là.
Mm-hmm. Je l'ai-tu déjà conté l'anecdote de Pat Burns à Joe Thornton, les boys, en début de carrière à Boston?
Non.
Ben, bien vite de même, tu sais, comme quoi tout le monde tente d'influencer la carrière d'un haut choix de repêchage, puis Pat, ben, t'as pas satisfait de la manière, à la vitesse à laquelle Joe, j'imagine, adhérait à ses enseignements, quoi que ce soit, puis à un moment donné, il l'avait pogné, il nous l'avait raconté en autre quand on collaborait avec lui, puis il avait dit, toi, Joe, là, tu veux-tu être un Mike Modano ou un Stéphane Richer? Puis honnêtement, tu sais, avoir eu la carrière de Stéphane Richer, c'est pas gênant, là, mais en tout cas, dans l'œil de Pat, il y avait deux catégories, là. C'est-à-dire d'un gars qui aurait peut-être pu être le meilleur ou un des meilleurs de sa génération. Puis en tout cas, il vénérait, semble-t-il, l'éthique de travail de Modano. Mais tu devais avoir envie d'y répliquer quand même au coach quand il t'a envoyé ça devant le kid en voulant dire, hey, on va être obligé de garder lui. C'est pas rien de te faire sentir ben, ben important, Guillaume. Mais ça,
non, exact. Hey. Puis tu sais, j'étais sur un try-out en plus, puis je savais que mes antécédents de blessure, il les met, puis il lance ça, c'est comme... Le gars, il va tellement bien, il va te voler ta place, t'es le first pick, réveille, tu sais, c'est comme, ah, bah, what, non, disons que j'aurais préféré qu'ils me disent, veux-tu une carrière à Mike Modano ou Stéphane Richer?
Vraiment. Ça aurait été mieux, ça, hein?
Ou le 1/10 de cette carrière-là.
Exactement. On parlait du duo de gardien tout à l'heure, les gars. Maxime, t'étais encore là, toi, le printemps à Lac, printemps 2010, là. Si je me trompe pas, oui. T'étais là, évidemment. Et, Carey Price, à qui on avait reconfié le filet à quelques reprises après des défaites de Lac, et du Canadien dans ces séries-là, les deux premiers rounds, Washington-Pittsburgh, avait dit, là, quelque part presque à la fin des séries, que si j'ai à je vais tout faire pour réussir ma carrière, puis si jamais ça va pas comme je veux, ça sera jamais à cause d'un manque d'effort. C'est le constat auquel il en était arrivé pendant ce moment-là. Et je me rappelle d'un commentaire de Hall Gill qui avait aussi dit que « That's the time where Carey became a man ». Que c'était en 2010. Ça faisait quand même une couple d'années qu'il était dans la Ligue. Est-ce que c'était quoi la camaraderie? Au début, Carey Price, il devait avaler de travers quand on a confié le filet à Alak à l'époque, Maxime?
Ben, tu sais, quand on parle des gars qui sont des vrais professionnels, c'est exactement le genre de situation auquel on fait référence. Tu sais, un Carey, on le sait qu'il voulait être dans le filet. On le sait qu'il aurait été capable de bien faire. Mais cette année-là, c'était Yaroslav qui allait bien. Ça a été des séries incroyables de sa part. Je pense que c'est là, comme jeune joueur, que tu réalises peut-être que c'est difficile de garder sa place dans la Ligue nationale. T'as pas, théoriquement pas le droit à l'erreur. Parce que c'est tout aussi simple que ça que t'embarques un autre gardien de but dans le filet, puis il fait le travail, puis il est plus, tu peux plus l'enlever. Parce que, tu sais, à Lac, cette année-là, t'aurais pas pu dire, bon, mais on va lui donner un repos, cette game-là, pour essayer de rentrer Price dans le filet. C'était impossible, tu pouvais tout simplement pas l'enlever. Donc, je pense que, tu sais, Al Gis qui disait, il avait raison, c'est qu'à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, même si tu fais les choses de la bonne façon, puis tu travailles fort, faut que tu te regardes et tu te dises, bon, qu'est-ce que je fais pas correct? Peut-être que je travaille trop fort, peut-être que je m'entraîne trop, peut-être que c'est mentalement, faut que je sois plus, que j'aie plus de plaisir, que ça soit pas juste une business d'aller avoir des statistiques, des performances puis tout ça. Puis, je pense que ça a été bon. On parle souvent là, de cette année, le Canadien qui a été chercher de la compétition à l'interne, mais ça, c'était l'exemple parfait. Quand il y a pas personne qui peut te pousser plus à être la meilleure version de toi-même que tes coéquipiers qui performent. Mm-hmm. C'était la même chose en tant que joueur de centre de quatrième trio. Quand je voyais les jeunes arriver de la Ligue américaine, puis je voyais que c'était des jeunes qui travaillaient fort puis qui performaient quand c'était le temps,
ouais.
La réaction première, c'est de te regarder toi puis de performer mieux.
Il y a eu le duo Luongo-Schneider. Guillaume, as-tu des anecdotes de duo de gardiens dont tu étais témoin ou des fois peut-être que c'était pas la super harmonie ou généralement les gars s'entendent pas mal tout le temps bien dans un club d'hockey?
Moi, c'est drôle, j'ai toujours eu des vétérans gardiens. Tu sais, oui, j'ai eu Carey ici, puis quand c'est arrivé avec Alak, j'étais parti. Mais j'ai toujours eu de jeunes gardiens qui rentraient dans la ligue avec un vétéran. Tu sais, je pense à Montréal, oui, Carey prenait sa place. Au début, c'était José qui était là. Il y a eu la transition. Après ça, on a eu Cristobal, on a eu David. Mais quand je suis allé avec le Wild par la suite, tu sais, j'ai eu Nicholas Backstrom tout le long que j'étais là-bas. Fait qu'on a eu Darcy Kuemper, on a eu Anton Khudobin qui est venu. On a eu plusieurs jeunes qui tentaient de faire leur place dans la Ligue nationale. Puis ensuite, avec les Sénateurs, ben, on a eu Craig Anderson, qui était le gardien partant pendant la saison que j'étais là-bas. Donc, j'ai jamais eu ce dilemme-là de c'est qui notre partant ou c'est qui va être dans le filet. T'sais, nous autres, c'était toujours Nicholas, c'était toujours Craig, c'était toujours les gars. Fait qu'on se retrouvait dans une situation où on savait, on profitait de ça, puis c'était des bons mentors pour les gars. Fait qu'on n'a jamais senti de compétition, on n'a jamais senti qu'un voulait la job de l'autre. C'était, c'est Craig qui est là, c'est Nicholas qui est là, puis quand ils vont partir, ben t'auras le filet. Pour l'instant, c'est leur place. Puis je pense que c'est sain aussi, autant qu'une compétition interne. Là,
mais je reviens à 2010, là, Max, t'étais là, là. Je veux dire, Carey a eu une bonne attitude, mais je pense que son attitude s'est développée au fur et à mesure qu'il traversait l'épreuve, si je me trompe pas. C'est les échos que j'en avais, c'est ça. Je veux dire, tu sais, le gars, tout le monde veut jouer, t'es d'accord avec ça, puis je, tu sais, comment il s'était comporté, avais-tu senti ou il vous l'avait pas fait sentir pantoute?
Non, 100% d'accord avec toi, Mario, c'est que tout le monde veut jouer, tout le monde veut être la vedette du match, là, on s'entend, là, c'est quelqu'un qui dit l'opposé est un peu menteur, ben d'une certaine façon, là, tu veux compter le gros but ou faire la grosse arrêt, puis, tu sais, Carey, quand je parle d'un professionnel, comme je le disais plus tôt, c'est juste la façon de se comporter. Tu voyais qu'il était là pour Alak. Tu voyais qu'il était prêt à le supporter. Il a compris la situation.
Mais instantanément, Max, ou ça a cheminé?
Moi, je pense que ça y a fait mal, mais je pense qu'il comprenait. Moi, je te dis qu'en dedans de lui, il se disait, bon, mais ça, c'est ce qui se passe en ce moment pour les séries. Faites attention quand je vais revenir l'année prochaine, parce que là, j'ai tout compris dans ma tête comment ça fonctionnait. Il y a plus personne qui va prendre mon filet après ça. Puis c'est un bon coéquipier. Il aurait été prêt s'il avait eu l'appel à un moment donné dans la série. C'est pas arrivé, mais je pense qu'on connaît la suite là après ça.
Mais il était revenu. Il avait gardé des matchs. Il avait gardé des matchs dans ces séries-là. Mais sauf que n'ayant pas rapporté la victoire, on ramenait à l'axe. Ma mémoire est bonne. Là, je ne referai pas les chaque feuille de sommaire là, mais c'est le souvenir que j'en.
Mais c'est aussi simple que ce qu'Alak faisait dans le filet, c'était trop bon pour enlever mettre Carey, tu sais, même si Carey arrivait puis il jouait bien, malheureusement s'il perdait le match, c'était sûr qu'on revenait à Alak parce que ce qu'il faisait c'était théoriquement un miracle, là, on s'entend là.
Hey, tu dis toi, sacrifice me dire une affaire. C'est puis le meilleur show qu'on a vu là avec les années Kovalev là, c'est les performances d'Alak ce printemps-là, c'est probablement Théo aussi, Théo a eu des gros matchs. Théo, José Théodore, Mané, l'année du cancer de Koivu, puis Théo a gaulé sa tête pour permettre à l'équipe d'accéder aux séries. Mais dans les performances individuelles des 25 dernières années, là, il y en a d'autres, là, mais vite fait, là, c'est certainement parmi les trois meilleurs.
Côté, pour renchérir sur ce que Max dit, pour moi, dans toutes les organisations que j'ai faites, puis on parlait tantôt de mentors puis de gars qui nous ont aidés, pour moi, Carey Price figure dans le top 3 des meilleures personnes, des meilleurs coéquipiers que j'ai eu la chance de jouer avec, par sa personnalité, comment il était, sa générosité, dans un rôle aussi gros, dans le comment il rayonne à Montréal, ces choses-là, la place qu'il prend dans l'opinion publique, pour moi, c'est une des meilleures top 3 des personnes avec qui j'ai joué. Honnêtement, ce gars-là, c'est un game changer dans un vestiaire. Moi, je suis certain qu'il doit être, ça fait 10 ans, là, 12 ans, là, je suis certain qu'il doit être à des lunes de ce qu'il était quand il jouait avec nous au niveau personnalité puis au niveau prestance dans le vestiaire.
C'est vraiment génial ce que tu viens de dire là. C'est tout un compliment. Puis imagine, toi, tu l'as connu avant 2010. Puis je pense qu'il est devenu encore meilleur comme personne puis comme coéquipier après 2010. Fait que si tu pensais ça de lui avant, imagine l'impact qu'il a sur toute son équipe depuis ce temps-là, hein, Max, puis Guillaume, les gars, puis c'est un vrai, hein, Price. Moi, je le sais, je le sais pas parce que je le connais, mais tu sais, je l'entends parler, puis on parle à du monde qui sont proches de lui, puis apparemment que c'est un vrai de vrai.
Ben moi, j'étais assis à côté de lui directement dans le vestiaire, puis pendant longtemps, j'ai eu la chance de jouer en plus dans la Ligue américaine avec lui, puis je suis pas capable, honnêtement, de trouver un côté négatif. Puis je dis pas ça pour être fin, là, parce qu'on s'entend qu'il écoute pas à soir, là, mais je suis pas capable de trouver un côté négatif, personnalité ou sur la patinoire. Ça, je vous le garantis.
Ouais, je suis d'accord.
Et je vais raconter une petite anecdote. Je l'ai raconté l'autre jour, mais comme vous l'avez connu comme coéquipier, je sais pas si les gens étaient conscients de ça. Avez-vous déjà remarqué comme spectateur, vous étiez peu avec, tu sais, quand il arrivait en retard sur la glace, quand il y avait une étoile? Avez-vous déjà vu ça, Guillaume? As-tu remarqué ça?
Ouais, il y a eu de la critique là-dessus.
Ouais, mais la vraie histoire, là, c'était pas vraiment je sais pas s'il y avait de la critique, mais les gens remarquaient qu'il était en retard, puis ça pouvait être interprété comme de la nonchalance. Mais ce qu'il faisait, c'est que c'est lui qui partait à tounes, qui rassemblait tout le monde après une victoire dans la chambre. Puis c'était comme un petit rituel. Vous en avez peut-être eu des tounes, les gars, qui rassemblaient toute la chambre dans un après-match. Puis c'était une toune de All in Oats. Le titre m'échappe juste pour mal faire. Je pense que c'est Private Eyes ou un autre. Puis Private, en tout cas, non, je la chanterai pas. Puis elle a parti. Fait que là, son nom, Michel Lacroix, l'attendait. Donnait du jeu un peu, puis à un moment donné, Carey apparaissait, mais c'était que pour lui, c'était plus important la célébration dans la chambre que d'être salué par tout le monde sur la glace comme étoile individuelle après.
Ben, l'impact dans le vestiaire est important, puis oui, pour moi, une chanson d'après-match, un rassemblement de victoires, c'est tellement dur de gagner des matchs de hockey, peu importe le niveau, que quand tu réussis à le faire, d'avoir cette chanson rassembleur qui nous amène tous ensemble, c'est primordial.
Ben, ça, c'est la musique qui nous rassemble et c'est la musique qui nous indique que c'est le temps de se séparer également.
Ah, tu vas nous manquer, Mario.
vous allez me manquer. Je vous retrouve plus tard dans la soirée avec Mathieu Darche, Peter McLeod, mon chum Peter, notre ami Mathieu Darche. Bonne balado, les gars. Merci, Maxime. Merci, Guillaume.
Salut, Mario.
Merci, Mario. À la prochaine.
À très, très bientôt. Merci, les gars. C'était bien bon. Voilà, c'était les gars de la Poche Bleue.